Bonjour à tous et bienvenue dans un cycle d'émissions spécialement réalisé pour la Semaine Sainte. Pendant 5 jours, jusqu'au Vendredi Saint, Radio Présence vous propose une lecture commentée, spirituellement et musicalement, de la Passion selon Saint Jean de Jean-Sébastien Bach. D'abord, qui vous parle, je suis Thibaut Dautuy, j'ai l'immense privilège de diriger Radio Présence à Toulouse. Vous pouvez me retrouver dans le cadre de l'émission « Rencontre avec nos évêques ». Je suis aussi un fou de musique, c'est donc un vrai bonheur pour moi d'enregistrer ces émissions. Pour nous porter dans la lecture commentée de la Passion, je reçois le père Jean-Michel Poirier et Jean-Marc Andrieux. Père Poirier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes prêtre, auteur de plusieurs ouvrages. Vous êtes aujourd'hui maître de conférence à la faculté théologique et à l'IERP de l'Institut catholique de Toulouse. Vous êtes aussi un fin mélomane connu sur les ondes de Radio Présence. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce cycle d'émissions. Jean-Marc Andrieux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef d'orchestre. Parmi vos 1000 activités, vous dirigez l'orchestre baroque Les Passions et vous êtes aussi le directeur du conservatoire de Montauban. C'est d'ailleurs sous votre baguette, le 26 février dernier, qu'a été enregistrée cette version de la Passion selon Saint Jean que nous allons découvrir pendant ces 5 jours. Alors, sans attendre, nous débutons notre écoute par le chœur initial Herr unser Herrscher. Voilà pour ces premières mesures de musique. Est-ce que nous pouvons commencer, Jean-Marc Andrieux, par positionner les 7 passions dans la production de Jean-Sébastien Bach ?
Oui, donc Jean-Sébastien Bach aurait composé 5 passions. C'est ce que dit son fils Carl-Philippe Emmanuel Bach, qui a écrit sa biographie, qui a écrit la biographie de son père. Il en cite 5, mais malheureusement, on n'a retrouvé que les partitions de 2 passions. La Passion selon Saint Jean et la Passion selon Saint Matthieu. On sait aussi qu'il a composé une Passion selon Saint Marc, et on ne sait strictement rien des 2 autres, donc c'est un crève-cœur de savoir qu'il a écrit une musique aussi géniale qui s'est perdue, et on peut aussi citer une centaine de cantates aussi qui ont été perdues sur les 300 qu'il a composées. Au niveau des passions, donc, la Passion selon Saint Jean marque son arrivée à Leipzig. Il va être nommé cantor de Saint Thomas de Leipzig en 1723, après la mort de Johannes Kuhnau, qui était son prédécesseur. Et tout de suite, il va se retrousser les manches, on va dire, et se lancer dans une tâche extraordinaire et qui est une créativité inouïe. Il va écrire chaque semaine, pendant les 5 premières années de sa fonction à Leipzig, une cantate par semaine. Déjà, on peut se demander comment il a pu faire.
Oui, parce qu'il ne sait pas que écrire des cantates.
Ah ben non, il a eu aussi des fonctions d'enseignant. Il devait enseigner la musique, bien sûr, faire chanter les enfants, et puis leur enseigner aussi le latin et la grammaire. Et il va aussi donc composer la première année de son ministère à Leipzig, cette Passion selon Saint-Jean, donc, qui date de 1724.
Je trouve que le terme que vous employez de ministère est parfaitement adapté, puisque c'est un vrai service, un service d'église en l'occurrence, que Bach rend, parce que ce n'est pas uniquement quelqu'un qui fait de la musique pour le culte, mais c'est quelqu'un qui, par la musique, sert le culte.
Oui, tout à fait. Et donc là, ces passions, la Passion selon Saint-Jean, pour revenir sur cette œuvre-là, dont on vient d'entendre l'introduction, en fait, va être reprise par Bach à plusieurs fois, au moins 5 fois. Il va la faire rejouer, il va la remanier, modifier un petit peu la partition. Et on verra donc au fil du temps que Bach s'est toujours attaché à à mettre à jour les compositions qu'il reprend, les retoucher, les moderniser, les changer, toujours les améliorer.
Donc ça, c'est la V12.2 qu'on a. On a plusieurs manuscrits.
Alors les manuscrits, il n'y a pas de manuscrit autographe du conducteur de la partition. Il reste seulement ce qu'on appelle des parties séparées, les partitions de chaque musicien. Et des copies, bien sûr, sont des copies soit de ses fils, soit de ses élèves. Et à partir de toutes ces partitions, on arrive à reconstituer ce qu'on pense être l'original.
Et sur ce cas d'introduction, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ?
Ce cas d'introduction, vous avez entendu plusieurs éléments thématiques importants. D'abord, on sent une pulsation, je vais risquer de dire lancinante, si on peut dire, ou obsédante, de cette basse qui répète cette note au début, qui peut-être pour certains peut illustrer quelques personnes pensent qu'il s'agit des clous qui sont plantés, mais enfin moi je trouve ça un peu exagéré. En tout cas, chacun peut voir quelque chose de lourd et de pesant, voilà, ça c'est sûr. Ensuite, vous avez les cordes qui font ces doubles croches, ta la 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 la, cette espèce de flou qui, là aussi, doit illustrer la marche de Jésus. Et puis, les flûtes et hautbois, les vents, font des figures de dissonance, des notes qui se rencontrent, qui créent des accords dissonants et qui, eux vont exprimer le drame qui va se jouer. Puis après, le chœur va lancer cet appel « Herr, Seigneur, Seigneur » et exprimer, j'ai du mal à trouver mes mots, peut-être...
La vénération, je ne sais pas.
La vénération, oui, voilà, merci.
Il faut souligner que ce chœur est vraiment très différent de celui qui ouvre la Passion selon saint Matthieu, qui fait intervenir la fille de Sion, où il y a des questions, des réponses, un choral qui vient par là-dessus. Alors que là, d'emblée, c'est Seigneur notre souverain, dont la gloire en tout pays resplendit. Et c'est bien dans la tonalité de l'évangile de Jean, où Jésus apparaît, plus que dans les autres évangiles, comme souverain, comme véritablement Seigneur. Alors que dans la Passion selon saint Matthieu, effectivement, c'est la fille de Sion, donc il y a tout un rapport avec Israël, Jérusalem, il est aussi l'agneau de Dieu, ce qui est très fortement prononcé. Voilà, je trouve que chaque cœur d'introduction sert bien la tonalité de chacune des deux passions, Matthieu et Jean.
Alors nous allons reprendre l'écoute de ce cœur introductif au milieu.
Oh.
Voilà, donc après ce milieu de ce chœur introductif, on peut peut-être s'attarder sur de quoi parle-t-on. Vous l'avez dit, vous avez commencé à le dire tout à l'heure, il y a une vraie différence entre ce chœur introductif entre Saint Matthieu et Saint Jean. Là, cet évangile de Saint Jean qui sert de base pour l'écriture de cette passion de Bach, qu'est-ce qu'il a de particulier? Pourquoi Saint Jean? Et qu'est-ce qu'il a de spécifique par rapport aux trois autres évangiles? Père Poirier.
Alors on peut imaginer qu'effectivement les autres passions mises en musique par Bach étaient Marc, donc on en est sûr pour Marc, et on peut penser qu'il y avait une passion selon Saint Luc également, oui. Puisque donc les quatre évangiles nous rapportent la passion, et une première chose qu'on pourrait dire d'ailleurs, c'est que concernant la passion, Jean se distingue moins que dans le reste de son évangile, c'est-à-dire que finalement il est plus proche qu'ailleurs de la perspective des synoptiques. Et donc avant de parler de la distinction, les synoptiques, c'est donc Matthieu, Marc et Luc, c'est-à-dire les trois autres évangiles
qui se suivent,
c'est plutôt Jean qui se distingue des trois autres, mm-hmm. parce que les trois autres se suivent à peu près dans l'ordre des épisodes, ont beaucoup de parallèles, alors que Jean a beaucoup de textes qui lui sont propres. Et concernant la passion là, il rejoint les autres. Et donc je crois que c'est d'abord une première marque distinctive avant de parler de la perspective propre à Jean. Il est bon de rappeler qu'il suit l'ordre des événements. Alors on a quatre grandes parties dans cette passion. On a d'abord la scène de l'arrestation au Jardin des Oliviers. Puis on va avoir la scène de la comparution devant le Grand Conseil des Juifs chez Anne. Et puis ensuite on va avoir la comparution devant Pilate, dont on parlera plus tard et qui prend effectivement toute une ampleur particulière chez Jean. Et enfin, bien sûr, la scène de la crucifixion. Donc on a quatre grands épisodes, quatre grandes parties dans cette passion, qu'on retrouve aussi, évidemment, monnayée un petit peu différemment dans les trois autres évangiles. Alors si on voulait caractériser peut-être l'évangile de Jean, on vient de le dire à propos du cœur d'entrée, Jésus y apparaît peut-être plus qu'ailleurs comme vraiment souverain. Ma vie, ce n'est pas moi qui... Enfin, plutôt, ma vie, nul ne me l'enlève, c'est moi qui la donne. Et je crois que, ça c'est le verset 10-18, donc c'est avant la passion, caractérise bien la passion selon saint Jean. C'est vraiment le véritable souverain, le véritable roi, c'est lui. Alors qu'évidemment, chez Marc, il apparaît comme dans tout le tragique. Il domine d'une certaine manière les événements, même si, bien sûr, il est arrêté, etc. Mais il y a cette caractérisation de Jésus comme véritable roi qui est une des tonalités propres à l'évangile de Jean. Et je trouve que le cœur d'entrée de la passion, selon saint Jean de Bach, le caractérise bien, Herr, unser Herrscher, notre souverain, notre seigneur, quoi.
Est-ce que ça en fait une musique plus apaisée que la passion selon saint Matthieu?
Non, plus noble et plus déclamatoire, certainement, hein, plus... Oui, et puis...
Il me semble d'ailleurs qu'il a composé la Saint-Jean avant la Saint-Matthieu.
Oui, certainement. Oui. C'est la première passion qu'il a composée. Ça. Il en a peut-être composé une en 1717 à Weimar, peut-être Luc ou Marc, on ne sait pas. Mais en tout cas, à Leipzig, c'est la première qu'il a composée, c'est la Saint-Jean, oui. Et la deuxième partie du chœur fait entendre une autre idée qui est les moments d'extrême bassesse, Niedrigkeit, qui est exprimé par une musique dans le grave et piano, Bach a lui-même marqué, c'est très rare, la nuance piano, où toutes les voix se retrouvent dans le grave pour illustrer les moments de grande bassesse. Mais il reste le vrai Fils de Dieu, même dans ces moments de grande bassesse.
Et c'est dans la bassesse qu'il est glorifié, dit le chœur d'entrée.
D'accord, vous parliez tout à l'heure de quatre parties, mais en fait, il n'y a pas véritablement quatre parties dans cette musique, c'est une succession d'épisodes, c'est pas vraiment découpé.
Alors, il y a deux parties, en fait.
Il y a deux parties.
Comme toutes les passions et même les cantates, c'est-à-dire qu'à l'époque, elles étaient en deux parties, parce qu'entre les deux, il y avait le...
Une prédication.
La prédication, voilà, du pasteur, à ce moment-là, entre les deux parties.
Et c'est peut-être aussi l'occasion de dire que ces passions étaient composées évidemment pour le Vendredi Saint, et qu'elles étaient un acte liturgique, Et j'ai fait une année d'études en Allemagne, à Bonn, très exactement. Et le vendredi saint, je suis allé entre midi et deux. Et la Passion selon saint Jean était donnée. On n'applaudissait pas à la fin. C'était pas un concert, c'était vraiment un acte liturgique.
Oui, oui en Allemagne, aux Pays-Bas, pendant la Semaine Sainte, pratiquement tous les orchestres jouent la Passion selon saint Jean ou la Passion selon saint Matthieu. Et oui, comme dit Père Poirier, on n'applaudit pas.
C'est-à-dire que pour se mettre un peu dans les conditions de l'époque, les personnes de l'assemblée venaient à la messe et pendant cette messe, on leur jouait une musique qu'ils découvraient forcément. Et ils étaient là, ils écoutaient le texte qu'ils connaissaient, qu'ils comprenaient.
Le texte était imprimé.
Le texte était imprimé.
Le public avait un petit livret imprimé avec le texte. D'ailleurs, ça nous interpelle parce qu'en fait, on fait un effort terrible pour que les gens puissent avoir une compréhension du texte quand on chante. Mais je ne suis pas sûr qu'à l'époque, ils aient ce souci-là, puisqu'ils avaient le texte sous les yeux. Mais ça n'empêche pas qu'on doit faire cet effort quand même.
Et puis je pense que c'était dit dans leur langue. Donc il y a quand même tout cet effort de Luther de faire que toute la parole de Dieu puisse être entendue dans la langue vernaculaire. Et puis c'était quand même des gens qui étaient très imprégnés de ces textes, c'est-à-dire qu'en fait ces textes, ils les connaissaient.
Bien sûr.
Un peu comme d'ailleurs la Passion selon saint Jean, nous l'entendons tous les vendredis saints. Et à la cathédrale de Montauban, pendant des années, je ne sais pas s'ils ont continué, lorsque j'en étais le curé, on l'a chanté aussi.
Oui.
Voilà, et les personnes finissent par connaître le texte, enfin du moins les réguliers. Je voudrais juste reprendre quelque chose dans ce que vous avez dit, c'est qu'il n'y a pas de messe le vendredi saint. Et je pense que c'était déjà le cas, effectivement. Enfin, je ne pense pas que la réforme luthérienne ait institué une messe là où il n'y en avait pas. Et donc, c'est vraiment le récit de la Passion est au centre de l'acte liturgique. C'est-à-dire, c'est vraiment une grande liturgie de la parole, si vous voulez. Alors, il y a la supplication, après la grande supplication, puis après, dans le culte catholique, il y a aussi la vénération de la croix. Mais c'est quand même le texte de la Passion qui est vraiment au cœur de la célébration.
Mais ça reste un acte isolé chez Bach. S'il n'en a composé que 3-4, il n'en a pas composé une par an pendant 40 ans.
Mais non, parce que c'est quand même une œuvre importante qui nécessite quand même beaucoup de temps. Et il a fait exécuter des passions au moins une vingtaine de fois à Leipzig. Peut-être, oui, je dirais une vingtaine de fois. Au moins 15 en tout cas. Et alors, donc, il a repris 5 fois la Passion selon saint Jean, par exemple. Et la Saint-Matthieu, il y en a 3 ou 4 versions aussi.
Oui, Saint-Matthieu, je crois même qu'il y en a 5 aussi. Oui. Mais donc, voilà, c'était des œuvres, des compositions considérables. Et donc, comme ça revenait, j'imagine, sur un cycle... Enfin, j'avoue que je ne suis pas expert en liturgie luthérienne, mais ça revenait sur un cycle de 4 ans, j'imagine. Oui. Donc,
il recyclait,
et puis ouais. C'est ce qui est bien normal.
Très bien. Nous allons continuer à écouter l'œuvre. Nous rentrons un petit peu plus maintenant dans le cœur de l'œuvre avec un premier dialogue entre Jésus et ses disciples. Nous l'écoutons.
Da fragte er sie allemal, wen
Voilà donc pour ce premier récit, ce premier dialogue. Alors on entend, on a l'impression qu'il parle mais pas vraiment, il chante mais pas vraiment, ça s'appelle un récitatif.
Oui.
Jean-Marc André, qu'est-ce que c'est qu'un récitatif chez Bach ?
Vous venez de le dire, effectivement, c'est on parle en chantant ou en chantant parlant. C'est-à-dire qu'en fait, le ténor, en fait, qui est l'évangéliste dans l'extrait qu'on vient d'entendre, le début, en fait, lit l'évangile, lit un arrangement poétique de l'évangile qui est dû à Brockes, mais c'est le texte.
Oui, c'est le texte. Oui.
C'est le texte, enfin, comment dire, exact de l'évangile. Et puis donc ce texte, il est habillé, il est mis en musique par le compositeur sous forme donc de récitatif. Le ténor, pourquoi une voix de ténor? Je pense que c'est parce que à l'époque, dans une église qui était quand même assez vaste, la voix devait porter assez loin. Et c'est le registre, comment dire, qui s'entend avec le plus de netteté dans une église, un ténor. Bon, ça ne pouvait pas être une voix aiguë de soprano, parce que c'était un enfant. Ça aurait été trop difficile pour un enfant, soprano ou alto, d'assurer ce rôle. Et la voix de ténor est assez comment dire, incisive, et puis peut arriver aux oreilles de tous les auditeurs. Et donc ce ténor-là va chanter, accompagné par ce qui est le moteur de la musique dans toute la période baroque, c'est la basse continue. Alors l'orgue et le violoncelle qui ponctuent le discours par des accords à certains moments pour fixer la tonalité. Et alors ce qui était extraordinaire chez Bach, c'est que chaque mot est illustré musicalement. Chaque fois qu'il y a une idée poétique ou bien sûr liturgique, elle est illustrée. Par exemple, dans le premier récit qu'on vient d'entendre, à chaque fois que vous avez le mot Judas, qui est Judas, il y a un accord de triton, de dissonance, qui évidemment fait référence à ce personnage, par exemple.
Est-ce que le fait... Jésus est chanté par une voix de basse, qui est donc une voix noble.
Voilà, c'est la noblesse.
Et c'est la noblesse. Et puis d'ailleurs, je pense que dans les deux passions, d'ailleurs, c'est moins agité, si on peut dire, que l'évangéliste. Enfin, remarquez que l'évangéliste, il a beaucoup plus de texte à dire aussi.
De débit.
Mais effectivement, lorsque Jésus parle, on sent que c'est le Seigneur. Donc, c'est une question que je pose à Jean-Marc Andrieux. Est-ce que le fait que la voix de basse ait été réservée à Jésus, du coup, ça l'a préempté? C'est-à-dire que l'évangéliste ne pouvait pas être une basse, nécessairement.
Est-ce que c'était réservé aussi, à Jésus? Le rôle était... Oui, tout à fait.
Ils sont bien distincts. Oui.
Vous avez raison aussi, cette voix de basse qui est plus noble est réservée, bien sûr, à Jésus. Et puis aussi à Pilate. Au souverain important.
Et puis alors on a noté aussi que par contre lorsque c'est plusieurs personnages, alors ça peut être les disciples, la foule, les soldats, etc. Là par contre il y a un petit déploiement, là on vient de l'entendre, lorsqu'ils répondent « Jésum von Nazareth », là ça se déploie tout à
coup. Oui, c'est la foule qui répond, oui bien sûr.
Pour revenir sur la basse continue, Bach n'a pas dit « je veux un orgue et je veux un violoncelle ».
Il l'a peut-être dit, mais il ne l'a pas écrit.
Il l'a pas écrit.
En tout cas, c'est l'usage. Mm-hmm. Alors, le problème qui se pose de nos jours, c'est l'orgue, justement, au niveau des instruments. Ce qu'on sait, c'est qu'à Saint-Thomas, c'était depuis la tribune.
Donc le grand orgue.
On utilisait le grand orgue, oui. Et actuellement, bien, qu'est-ce qu'on fait? On utilise des orgues positifs, des petits orgues qui, à mon avis, n'ont rien à voir avec la pratique de l'époque. Bon, évidemment, c'est très compliqué de nos jours de reconstituer ces conditions-là. En tout cas, pour cette production-là, j'ai tenu absolument à ce qu'il y ait un principal, c'est-à-dire des tuyaux ouverts et pas des tuyaux bouchés de bourdon, qu'on appelle bourdon, qui a un son, je trouve, trop faible et trop étouffé. Donc le jeu de principal a une certaine puissance qui va pousser et bien accompagner l'évangéliste.
D'accord. Et donc à côté donc, un violoncelle.
Et à côté donc un violoncelle qui va jouer exactement la même chose que la main gauche de l'organiste, c'est-à-dire les notes graves, ces basses-là, ces notes qui ponctuent le discours voilà, pour souligner les harmonies.
D'accord.
Voilà, donc la basse continue.
Très bien. Alors nous allons maintenant écouter un premier choral. Il y a deux chorales qui concluent un peu cette première partie que nous écoutons en ce lundi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Père Poirier, le principe du choral dans la liturgie luthérienne ?
Alors, la liturgie, selon Luther, c'est une liturgie qu'il prend à la liturgie qu'il connaît, donc la liturgie catholique, mais qu'il va transformer de façon à ce qu'il y ait une participation active des fidèles. C'est intéressant de voir que la réforme de Vatican II dira aussi qu'il faut une participation active des fidèles. Et l'une des façons pour les fidèles de participer activement à la liturgie, c'est de chanter. Et de chanter ensemble. C'est-à-dire que c'est l'assemblée qui chante. Et donc on va inventer, donc c'est pas un chœur que l'on écoute, je parle dans l'assemblée liturgique habituelle. Et on va donc inventer des textes sur des musiques qui seront d'une certaine simplicité de façon à ce que tout le monde puisse les chanter, voilà. Et on va constituer un répertoire en allemand. Donc dans la langue vernaculaire, de manière à ce que tout le monde puisse non seulement la comprendre, mais se l'approprier. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que ces paroles sont généralement des déclarations de foi. C'est-à-dire que c'est pas des commentaires, mais c'est vraiment une façon aussi de dire sa foi. Vous savez que Luther a mis l'accent sur la foi comme réponse à l'initiative de la grâce divine qui se transmet par la parole. Et donc il y a la parole de Dieu, et le fidèle y répond par la foi. Et la foi, elle va s'exprimer dans le choral par les paroles chantées.
Et c'est lui qui a écrit ces chorales ou c'est d'autres ?
Alors lui, il a lancé le mouvement, si je puis dire, puisqu'il a écrit 30 et quelques chorales, 36 exactement, chorales, mais il a donné un mouvement, et à la fin du XVIe siècle, donc pratiquement un siècle après, on compte plus de 4000 chorales. Et même à la fin du XVIIe, je crois qu'on va jusqu'à 5000 chorales. Mais après, ceci dit, tous n'auront pas la même popularité,
oui, parce que tout le monde
ne peut pas chanter. Puis j'imagine que dans tous ceux qu'on répertorie, tous n'étaient pas chantés dans la même église. C'est-à-dire qu'un peu comme aujourd'hui dans nos églises, chacune avait un petit peu son répertoire. Enfin, il y en avait qui étaient partagés un petit peu par les différentes églises.
Hein. Certainement. Au moins, il y avait, on va dire, un tronc commun d'une centaine de chorales.
Enfin, c'est ça, voilà.
Tout le monde connaissait.
Qui était, comme par exemple le fameux Hohaupt, Vollblut und Wunden, qui est le choral qui est repris 5 fois dans la Passion selon saint Matthieu, que nous connaissons nous, parce que c'est Mystère du Calvaire, Scandale de la Croix. Donc on voyait, on a adapté en français, voilà. Et alors donc, lorsque dans le cadre de la Passion, le choral va être chanté, il ne va pas être chanté par l'assemblée, semble-t-il, parce que l'harmonisation était, enfin du moins c'est Gilles Cantagrel, c'est ce qu'il prétend, que l'assemblée ne chantait pas, bon, ça, peut-être que Jean-Marc aura un avis différent, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, même s'il ne le chantait pas, il le connaissait ce choral.
Il le chantait intérieurement, en tout cas.
Il le chantait intérieurement, et donc...
Oui, effectivement, voilà. Pour les passions, d'après Gilles Cantagrel, il ne le chantait pas, mais au dimanche, à la fin des cantates, on sait que l'assemblée chantait le thème du choral qui était harmonisé.
Voilà, tout à fait. Et donc, si vous voulez, ces chorales qui vont ponctuer toute la passion, c'est une façon aussi pour l'assemblée, puisqu'on a dit que c'était un acte liturgique, pour l'assemblée de prier ensemble et de dire sa foi en réponse à la parole qui vient d'être énoncée par l'évangéliste, par Jésus, par les autres acteurs.
C'est encore aujourd'hui la base de la participation dans les temples luthériens. Ça reste, ce sont
les mêmes chorales. Ah, le choral, oui. Et je dirais même que j'ai donc fréquenté pendant un an le culte évidemment catholique en Allemagne. Et ce qui est frappant, c'est qu'en Allemagne, vous avez un livre livre de prière, hein, enfin Gotteslob pour les catholiques, et vous avez des numéros, et on affiche le numéro, et il n'y a pas d'animateur de chant. C'est l'orgue qui attaque et tout le monde, comme un seul homme, si je puis dire, chante le choral.
Et oui, c'est vraiment un répertoire commun qui est le ciment un peu de la société. À ce moment-là, c'était très important. Qu'est-ce qui a dit celui qui chante prie deux fois ?
Est-ce que c'est alors, on l'attribue à saint Augustin, je crois, mais je ne sais, j'avoue que je ne saurais pas.
En tout cas, Luther avait justifié justement son utilisation, enfin, la création de ce mouvement de chorale par ce texte que je trouve intéressant, celui qui chante prie deux fois.
Alors nous allons écouter le chorale au Grosse Lib. Voilà, ce choral au Grosse Lib. Est-ce que, Jean-Marc Andrier, vous pouvez nous donner quelques petits éléments de repère ? Bach a beaucoup repris ses chorales dans son œuvre musicale, et il en a fait une immense variété dans les instrumentations.
Oui, bien sûr, ça a nourri toute son, sa matière musicale, et sa culture même est issue du choral, ça c'est sûr et certain. Évidemment, il y a l'harmonisation des chorales, dans toutes ses cantates. Carl-Philipp Emanuel Bach, son fils donc, en a fait une compilation de 365 chorales harmonisées par son père. Il y en a un nombre vraiment important. Et puis évidemment, il ne faut surtout pas oublier le choral orné à l'orgue, le choral figuré, où là Bach était un maître incontestable, était un virtuose extraordinaire. Il était capable d'improviser sur des mélodies de chorale pendant des heures. Alors on cite le voyage qu'il a fait à Lübeck pour aller voir Buxtehude en 1707. Il est parti à pied 4 mois et puis il est revenu. Et au retour de son voyage, il a un peu choqué les fidèles qui ont trouvé qu'il improvisait d'une façon un peu bizarre. Il a un peu choqué les oreilles des fidèles de l'église qui lui ont reproché et en fait il s'est justifié en disant qu'il était parti voir Lübeck pour apprendre de nouvelles choses dans son art. Voilà, le choral nourrissait tous les musiciens en Allemagne à ce moment-là, et on peut dire que c'est quand même Bach qui a porté le choral à son degré de perfection ultime.
Il nous en reste aujourd'hui pas mal de partitions, les chorales du Leipzig et d'autres, etc., mais on imagine que par rapport à tout ce qu'il a pu improviser en permanence, en fait, il y a énormément de choses qu'on ne connaîtra jamais.
Extraordinaire. Et puis les organistes vénèrent Bach et son traitement du choral.
Peut-être préciser pour nos auditeurs qu'il y a donc le choral au sens du cantique qui est chanté par tous et qui peut être accompagné de diverses façons, mais après il y a ce qui éventuellement soit le prélude, hein.
Oui.
Soit éventuellement, ça pouvait être joué éventuellement après, je ne sais pas. Hein. En tout cas, ce sont des variations sur l'air, par l'instrument seul, généralement l'orgue.
L'orgue, oui.
Voilà, et que tout le monde pouvait apprécier, parce que tout le monde avait la mélodie de base, si je puis dire, dans l'oreille. Et lorsque l'organiste proposait en quelque sorte des variations, enfin, en quelque
c'est
sorte...
C'est cela, des ornementations ou une improvisation de mélodie qui se rajoute au choral qui est joué très lentement, en valeur longue.
Voilà, et tout le monde pouvait apprécier, écouter. Et donc, si c'était un prélude, par exemple, un prélude de chorale, ben, l'orgue développé, puis à la fin, eh ben, il y avait l'assemblée. D'ailleurs, il y a quelques disques qui nous proposent ce genre de dispositif, c'est-à-dire qu'il y a les préludes qu'on entend, et ensuite, on entend le choral chanter, alors que la plupart du temps, dans les disques, vous avez le prélude seul, c'est-à-dire la variation de l'orgue sur le thème du choral.
Nous écoutons ce deuxième choral, Dein Willgeschehe, qui est rien d'autre que le Notre Père. Voilà ce deuxième choral que nous avons écouté. Pour aujourd'hui, lundi, nous allons fermer cette émission. Nous nous retrouvons demain.